Bien, merci beaucoup, Philippe. Merci de m'avoir invité. Je suis très impressionné de voir cette grande institution qu'est l'IPSEM. Bravo pour les organisateurs. Je vais vous parler effectivement de l'expression corporelle et de l'art-thérapie pour les patients atteints de maladies chroniques, particulièrement le diabète et l'obésité. Avant, j'aimerais vous faire écouter une pièce de musique et vous allez réfléchir qu'est-ce que cette musique vous incite, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous pouvez imaginer, penser en écoutant cette musique. Ça prendra une minute et je vous la repasserai à la fin de ma conférence en vous donnant un peu l'explication qui l'a écrite et pourquoi et comment et à qui, etc. Je vous donnerai après. Alors, on va parler d'art-thérapie. C'est une pratique de soins par des médiations artistiques. Elle utilise l'expérience artistique comme un moyen d'expression et offre des voies de communication autres que la parole. Ce qui veut dire que c'est une approche que nous avons utilisée dans le service pour les patients qui ont de la peine à s'exprimer et qui ont des difficultés pour des raisons psychologiques et de vécu et qui c'est une approche qui peut être avant une psychothérapie ou qui peut permettre une psychothérapie par la suite. Je vais vous passer quelques photos qui ont été aimablement données par nos patients, donc et par Christina qui va vous parler tout à l'heure. Habituellement, en art-thérapie, on ne fait pas de jugement, on n'interprète pas, et c'est le patient qui s'exprime. Donc, je ne ferai aucun commentaire. Et je pense que chaque personne qui a pu s'exprimer de cette façon-là, a voulu dire quelque chose. Alors l'art-thérapie au service de l'éducation thérapeutique, c'est un moyen de découvrir d'autres moyens d'expression. C'est être actif, particulièrement dans l'apprentissage, lorsqu'un patient doit apprendre. Et c'est favoriser l'expérience. Il y a un processus important qui est un processus créatif. Apprendre par l'expérience, c'est essentiel dans l'éducation thérapeutique particulièrement. Et on n'utilise pas assez dans notre langage les métaphores. Justement, l'art-thérapie, les œuvres permettent d'ouvrir tout un chemin et toute une vision métaphorique. Et ce n'est pas souvent le cas, mais on ne parle pas assez avec les métaphores lorsqu'on essaie d'éduquer ou de faire un apprentissage. Et puis, il y a les liens entre l'expérience créative et la pratique et le vécu au quotidien. Alors, dans notre service, on a intégré cela avec toute l'approche bio-psycho-pédagogique qui sont très souvent complémentaires à les approches psychothérapeutiques, cognitivo-comportementales, que ce soit systémique ou voire même de la gestalt. Et c'est une approche globale où, effectivement, c'est une approche par des personnes, je dirais une équipe interdisciplinaire. Donc je vais vous parler essentiellement de la danse-thérapie ou de l'expression corporelle, comme tu disais si bien, et l'art-thérapie. L'art-thérapie englobe les arts plastiques et visuels. Je ne parlerai pas aujourd'hui de musicothérapie. Les patients peuvent être suivis en groupe ou en individuel ou en alternance. Alors les programmes, ils sont notamment pour les patients, mais ce que je viens de vous faire comme exercice, on le fait notamment lors du diplôme d'éducation thérapeutique, où un après-midi est dévolu pour faire justement une approche créative, et je dirais, on travaille notamment aussi avec la musicothérapie. Les soignants de notre service ont fait justement plusieurs ateliers de ce type-là avec nos art thérapeutes, donc savent de quoi il s'agit et peuvent ensuite aussi intégrer cette approche parmi leur traitement. On a même été plus loin. Actuellement, on propose, j'espère que ça durera, mais ce n'est pas certain, ça fait 4 ans qu'on fait un module pour les étudiants en médecine, en art et médecine, où ces étudiants, pendant un mois, font de la création, du théâtre, font de l'art plastique. Et ça a extrêmement marqué, je dirais, ces étudiants en médecine, que je revois plusieurs années plus tard. Et je pense qu'on devrait instituer ça dans nos facultés de médecine plus souvent. Alors, je vous donne quelques exemples. Ça, c'est un atelier de marionnettes où les patients vont d'abord écrire leur histoire, ensuite la présenter et ensuite la jouer en confectionnant des marionnettes. On a fait ça même avec des acteurs où les patients proposaient à des acteurs de jouer leurs histoires. Et c'est une manière incroyable d'exprimer son vécu et de prendre une distance par rapport à son histoire. On inclut aujourd'hui ces ateliers de marionnettes après une psychothérapie, pendant ou en alternance avec une psychothérapie. C'est une manière extrêmement puissante de faire parler les patients. Les soignants donc sont capables, et je dirais, nous sommes en mesure d'aider le patient à se raccommoder. Là, c'est un atelier que Christina a appelé le corps sensible. C'est une approche où les patients ont une séance d'hypnose au départ, d'auto-hypnose pour se déstresser. Et puis ensuite, une partie d'art-thérapie. C'est une thérapie en groupe qui est animée par un art-thérapeute et une psychologue. Et puis, les patients apprennent à se reconnecter avec les sensations. On parle souvent d'éducation thérapeutique en 5 dimensions chez nous, dont une des dimensions est justement la perception. Perception, la sensation de faim, la perception à l'activité physique, la perception de l'émotion, etc. Et là, les thèmes sont sur les 5 sens. Et dans tous nos ateliers qu'on a fait jusqu'à maintenant, on essaie d'évaluer pour en faire une recherche-action. Et là, on va regarder l'image du corps avec des tests, l'estime de soi, etc. Je vous montre ici l'estime de soi dans un groupe de 20 patients. On voit que l'estime de soi s'améliore significativement, mais elle s'améliore encore 8 semaines plus tard que ces ateliers. Donc ces patients se socialisent encore mieux et une meilleure approche avec les autres. Là, c'est un atelier empreinte où l'objectif, c'est de se rencontrer par un acte créateur, donc de créer quelque chose, de mobiliser l'élan vital et les ressources internes. Ça se passe en 12 séances et ils utilisent l'art plastique, peinture, dessin, terre, collage, photo. On a une salle au sous-sol dans une villa à côté de l'hôpital. Et de nouveau, on essaye d'évaluer par toutes sortes d'approches, toutes sortes d'auto-questionnaires, des questionnaires sur non seulement l'estime de soi, mais sur d'autres possibilités. Ça, avant de parler de questionnaires, j'aime beaucoup montrer cette photo parce que finalement, Christina utilise cet exercice au début, au milieu et à la fin des ateliers où le patient doit se représenter lui-même dans un verre. Et on voit à droite en haut, lors de la première séance, un verre qui est plein de magma avec du rouge au fond qui représente la colère. Donc ça, j'interprète pas, ça a été dit comme cela. Et vous voyez, sans faire d'évaluation statistique, que le patient sent beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, beaucoup plus allégé dans de l'eau claire avec des pierres précieuses au fond du gobelet 12 semaines plus tard. Donc ça vaut toutes les évaluations statistiques. Je pense que ça parle de tout seul. L'atelier des images et des mots, ça c'est de favoriser la rencontre de l'autre aussi, être en relation avec son corps et ses images. Ça c'est une alternance, c'est une psychothérapie individuelle par une psychologue et par l'art-thérapeute. Et ils alternent entre une thérapie individuelle et en groupe. On a réalisé que ça pouvait être aidant d'être en groupe et d'être en individuel en parallèle. Ça, c'est une image d'un patient qu'on a mis encadré même dans notre service, où le patient dit qu'un docteur est efficace lorsqu'il regarde avec les lunettes du patient. Je pense que là, non, je n'ai pas besoin non plus d'évaluation pour montrer que c'est quelque chose d'important et de parlant. En conclusion, le patient va s'exprimer différemment, il va explorer son univers intérieur, il va aller à la rencontre de soi, mais comme à la rencontre des autres aussi, il va récupérer des forces morales et psychologiques pour se reconstruire et être mieux dans le plan social. Il est acteur lui-même de son changement. Je vous parle maintenant de la danse, l'expression corporelle. C'est pour permettre de faciliter l'expression d'un vécu difficile de nouveau à exprimer. Sachez qu'un tiers de nos patients obèses que nous voyons ont souffert de harcèlement sexuel ou de viol, et que c'est par ces approches non verbales et d'expression de ce type-là que les patients arrivent à mieux vivre et à s'exprimer. On essaye de restaurer un langage corporel et sa symbolique. C'est des gens qui sont complètement pris dans un carcan et dans une gangue. Prendre conscience de son corps par des exercices sensoriels. Ils travaillent également la représentation mentale et l'image du corps. Et puis finalement, ils intègrent les deux, exercices sensoriels et la mémoire corporelle, sous forme de danse et de l'expression. Je vois des patients qui n'ont jamais dansé de leur vie et qui se prennent à bouger et à aimer. Et particulièrement les personnes obèses n'osent plus. Et finalement, dans ces situations bien intimes, ils arrivent à s'exprimer de manière incroyable. Ça, c'est la conscience posturale. Alors, on a des tests très particuliers où on arrive à mesurer une amélioration de la conscience posturale. On a une amélioration de l'image du corps. On a également, et ça c'est sur avant 6 mois et 12 mois, et là, la qualité de vie. Ça c'est un questionnaire qu'on utilise beaucoup aujourd'hui sur la qualité de vie des patients obèses. Vous voyez que ça s'améliore de manière extrêmement significative. En résumé, la danse-thérapie améliore de manière significative et progressive les échelles de la perception corporelle, de l'image du corps, on a vu de l'estime de soi, de la qualité de vie, et les patients ont amélioré leur dysfonction moteur. C'est impressionnant de voir ces gens qui arrivent à s'exprimer d'une manière corporelle. Ils ont acquis une aisance corporelle et leurs représentations mentales sont devenues beaucoup plus positives par rapport à l'image du corps. Là, je ne vous parle pas de poids. Et effectivement, ils peuvent perdre 50% perdre du poids. 50% ne sont pas prêts encore. Ils ont dû faire cette approche-là en préliminaire pour aborder un programme de perte de poids. En conclusion, ces patients sont capables d'exprimer sensations, émotions, sentiments, alors qu'ils avaient beaucoup de peine à le faire jusqu'à maintenant. Ils ont une nouvelle perception corporelle, donc une meilleure image de soi. Ils ont une nouvelle représentation mentale, et donc ça veut dire qu'ils ont une meilleure estime de soi aussi. Et ils communiquent mieux avec leur corps, mais aussi avec les autres. Et je voudrais ici remercier mes collaborateurs. Avant, j'ai cette image, le chemin de l'expression, c'est de suivre une route de traverse pour apprendre à réactualiser la connaissance de soi afin que le désir de se découvrir et d'exister devienne plus fort que la peur du changement. Et je voulais remercier ici mes collaborateurs et particulièrement mes patients. Voilà, j'aimerais vous faire écouter le même morceau en essayant de vous dire que c'est un morceau écrit par Schumann dans le Carnaval. Il a décidé de, plutôt que d'écrire des lettres à son amoureuse, parce que son prof de piano était le papa de Clara, et il lui interdisait de lui écrire des lettres. Il ne voyait pas d'un bon oeil le Robert s'approcher de Clara. Et alors il lui écrivait des petites scénettes de musique, et une, notamment, qui s'appelle Karina, et qui montre en fait sa passion qu'il a pour cette jeune femme et qu'il a attendu des années pour se marier avec elle. Voilà. Alors je voudrais faire écouter cette musique pendant une minute, puissiez vous représenter ce que c'est la passion de Robert pour Clara à cet âge-là.
Merci.